VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h à Bujumbura. Bonjour, bienvenue au Burundi. Le CNDD, FDD, le parti au pouvoir au Burundi, s'en est pris violemment à la Belgique, ancienne puissance coloniale accusée d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser ce petit pays des Grands Lacs, plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne lancent des déclarations apocalyptiques concernant un génocide au Burundi, dans le seul but de protéger une nébuleuse politicienne que le colonisateur belge finance et arme dans ce petit pays afin de le détruire, a affirmé le président du parti, Pascal Nyabenda, dans un communiqué. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, 8 militants d'un parti congolais récemment passés à l'opposition ont été arrêtés hier et c'était à Lubumbashi, Edi Sango.
Selon des témoins, 8 personnes ont été arrêtées au siège du parti où les soldats ont même déchiré la grande affiche à l'effigie de Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'UNAFEC et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'armée affirme que ces arrestations résultent de la traque des membres du service d'ordre de l'UNAFEC recherchés pour avoir incendié la maison d'un dissident, ce que dénonce ce parti. L'UNAFEC appartient au G7, groupe des 7 partis dont les dirigeants ont été exclus de la majorité en septembre après avoir mis en garde les présidents Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 contre la tentation de s'accrocher à son poste. À Kinshasa, l'opposant Joseph Olinga Nkoy, président de FONUS, a déclaré que 3 membres de son mouvement avaient également été arrêtés le 5 novembre.
Un casque bleu est mort hier en Centrafrique lors d'affrontements entre factions rivales à quelques semaines des élections qui doivent remettre le pays sur les rails. La mort de ce soldat a eu lieu au moment où l'ONU s'apprête à envoyer des centaines de casques bleus supplémentaires dans le pays. Le soldat a été retrouvé mort à Batangafo, à près de 400 km au nord de Bangui, où avaient éclaté les violences entre des éléments armés assimilés aux milices majoritairement chrétiennes anti-Balaka d'une part et d'autres assimilés à l'ex-Seleka, une coalition hétéroclite à dominante musulmane.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président béninois Thomas Boni Yayi, l'un des rares chefs d'État africains à être engagé, à s'être engagé à passer la main au terme de 2 mandats, a choisi de respecter sa constitution en ne se présentant pas à l'élection présidentielle de 2016. Il a expliqué hier dans un entretien à l'agence France-Presse en marge d'une visite officielle à Paris. Chacun sa conviction. La mienne, c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit 2 mandats non renouvelables, a déclaré le chef de l'État béninois. Au Nigeria, la police a dispersé hier de manière musclée plusieurs centaines de Biafrais qui manifestaient pour la libération d'un militant de la cause indépendantiste à Port-Harcourt. Anastasie Tudiech.
À Port-Harcourt, capitale de l'État de Rivers, la police a confirmé la manifestation mais a nié les tirs de sommation et l'utilisation de grenades lacrymogènes. La police fédérale avait annoncé un accroissement des mesures de sécurité, avertissant que personne ne serait autorisé à troubler la paix de la nation. L'organisation du peuple indigène du Biafra, l'IPOB, organise depuis des semaines une série de manifestations pour réclamer la libération de Nnamdi Kanu, directeur de la station pirate Radio Biafra. Il a été arrêté en octobre. Avant cela, sa radio avait été fermée après avoir été accusé de diffuser des messages de haine. La multiplication des manifestations en faveur de sa libération ravive le souvenir de la sécession du Biafra et de la guerre qui avait fait plus d'1 million de morts entre 1967 et 1970. L'ethnie Igbo, majoritaire dans le sud-est du Nigeria, se plaint d'être punie depuis la fin de ce conflit.
8 policiers sud-africains ont chacun écopé ce mercredi de 15 ans de prison. Ils sont accusés du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain en 2013, traîné sur la chaussée par un fourgon de police, un supplice filmé par des amateurs et qui avait suscité l'indignation. Ce fait divers qui s'était produit à Daveyton, dans la banlieue de Johannesburg, avait profondément choqué l'opinion publique grâce à une vidéo amateur qui montrait le supplice infligé au chauffeur de taxi, Mido Macha, un Mozambicain âgé de 27 ans. La suspension des vols des compagnies aériennes russes vers l'Égypte à la suite du crash de l'Airbus de Metrojet devrait se traduire par un préjudice financier d'environ 200 millions de dollars pour les tout opérateurs russes, a indiqué aujourd'hui une représentante du secteur. L'Égypte constitue avec la Turquie la destination préférée des Russes, mais aussi celle grâce à ses bas tarifs qui souffraient le moins de l'effondrement du marché touristique causé par la récession en Russie. L'Afrique compte sur le sommet de la Valette et la conférence sur le climat COP21 pour financer son électrification. On soulignait hier à Paris 5 chefs d'État. Le point avec Arzuma Compaoré.
Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré que les problématiques de la migration et du changement climatique sont étroitement liées. En compagnie de Thomas Yayi Boni du Bénin, Alpha Condé de la Guinée, Ali Bongo du Gabon et du premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, ils ont été reçus hier par François Hollande à l'Élysée. Une réunion pour préparer la COP21 qui s'ouvre fin novembre à Paris, ainsi que le sommet de la Valette qui réunira mercredi et jeudi les dirigeants de l'Union européenne et d'une trentaine de pays africains sur la question des migrants. La désertification, l'érosion côtière, le manque de pluie provoqué par le réchauffement de la planète aggrave la pauvreté du continent subsaharien, a expliqué de son côté le président Yayi Boni. L'Afrique a aussi besoin d'électricité, a insisté le premier ministre éthiopien. 75% des Africains, soit 650 millions de personnes, n'y ont pas accès. Le coût d'une électrification complète du continent est évalué à 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans.
11h07.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, plusieurs candidats républicains à la Maison-Blanche, Donald Trump en tête, ont rejeté cette semaine toute augmentation du salaire minimum, un sujet de contentieux dans la campagne électorale. De son côté, le neurochirurgien Ben Carson, également interrogé à ce sujet, a dit que s'il était élu, il n'augmenterait pas le salaire minimum. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, est allé plus loin en estimant que ce serait catastrophique pour l'économie du pays. L'augmentation du salaire minimum est un sujet controversé aux États-Unis et est ardemment défendu par les candidats démocrates à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton et Bernie Sanders. Le Congrès américain à majorité républicaine a renouvelé hier l'interdiction de transférer aux États-Unis des détenus de la prison de Guantanamo sur l'île de Cuba afin d'empêcher le président Barack Obama de fermer le centre de détention militaire. Une première version de la loi avait été adoptée en octobre, mais Barack Obama y avait opposé son veto à cause d'un différend sur l'enveloppe budgétaire et également à cause des restrictions sur Guantanamo. Mais cette fois, la Maison-Blanche a confirmé que Barack Obama promulguerait la loi, le Congrès disposant de la majorité de 2/3 nécessaire pour surmonter un veto. L'opposante birmane Aung San Suu Kyi a appelé aujourd'hui à des pourparlers avec 3 des principaux dirigeants birmans au moment où les résultats partiels des élections de dimanche créditent son parti d'une victoire historique. Une alternance est donc théoriquement en marche, mais les partisans d'Aung San Suu Kyi s'inquiètent de ce que peut être la réponse de l'armée à une déroute annoncée dans les urnes. Lors des dernières élections nationales jugées libres en 1990, la junte avait laissé la LND concourir et gagner, mais les résultats n'avaient jamais été proclamés. Scandale du dopage en athlétisme. Vladimir Poutine restait pour l'instant muet sur les accusations de dopage organisé qui visent la Russie. Préside aujourd'hui une réunion sur les Jeux olympiques de 2016 dans un contexte explosif à 2 jours seulement d'une possible suspension de son pays de toute compétition en athlétisme. Une rencontre qui prend une toute autre ampleur à cause du scandale sans précédent dont la Russie est au centre depuis lundi, mêlant accusations de corruption et de dopage jusqu'au plus haut niveau de l'État. On termine ce journal en rappelant le principal sujet dans ce journal. C'est le Burundi, le CNDD-FDD, le parti au pouvoir dans ce pays, s'en est pris violemment à la Belgique, ancienne puissance coloniale accusée d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser ce petit pays des Grands Lacs, plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne lancent des déclarations apocalyptiques concernant un génocide, a déclaré donc Paul Nyabanda, le président du parti CNDD-FDD au pouvoir, dans un communiqué. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans 50 minutes sur la même station. Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.